Christelle Perrier est habillée de toute une gamme de bleus lorsqu'elle arrive dans les studios de PFM. Volubile et soucieuse de faire connaître son métier, si singulier à Arras, et c'est l'objet de ma première question, quel est votre métier ?
Alors mon métier, c'est de perpétuer une tradition de porcelaine d'Arras. Voilà, donc j'ai repris le bleu d'Arras, qui est une tradition qui fait vraiment partie du patrimoine de la ville d'Arras. Ça va faire 3 ans que je peins des porcelaines avec ce fameux bleu d'Arras, cet oxyde de cobalt.
Si on remonte à l'histoire de ce bleu d'Arras, ça vient de 4 sœurs au XVIIIe siècle. Quelles étaient ces 4 sœurs et qu'est-ce qui s'est passé ?
Il faut remonter en 1770, donc, où 4 sœurs d'une même fratrie, les sœurs de Lemaire, vont créer, et tous ces motifs vont créer et fabriquer. Il n'y a qu'à cette seule époque d'ailleurs que cette porcelaine va être fabriquées. Elles vont créer tous ces motifs que je perpétue dans ma boutique. Voilà, elles vont s'inspirer de motifs de Tournai, un petit peu d'ailleurs. Hein. La manufacture de Tournai va se créer en 1750. Donc on pense que, bon, tout de même, Arras est un petit peu allé voir ce que faisait Tournai. C'est inspiré de ce motif qui s'appelle le décor à la brindille, qui est une fleur très légère, très raffinée, peinte à la plume, au pinceau. Et avec ce bleu très profond, très particulier, qui est cuit d'ailleurs à cette même époque, hein, avec des fours à bois, hein, qui est cuit à 1300 degrés, à très haute température.
Alors c'est énorme, j'imagine qu'il y a des sécurités à prendre énormes dans ces... Comment déjà, on modèle déjà un objet ? Comment ça se passe ?
C'est ça, de leur temps, donc il y a des modeleurs, elles sont entourées de modeleurs. C'est une toute petite manufacture, hein, c'est rue d'Amiens, ici à Arras, c'est très peu connu, c'est vraiment très local à Arras. C'était là où elles partaient d'un modèle créé en terre ou en plâtre, où par-dessus, elles allaient fabriquer un moule, et grâce à ce moule, elles allaient couler à l'aide de barbotines, de terre liquide de porcelaine, tous ces objets qu'on a retrouvés. D'ailleurs, il y a une belle collection ici au Musée des Beaux-Arts à Arras, où on peut voir tous ces vestiges, toutes ces porcelaines d'époque signées AR, qui veut dire qu'elles sont fabriquées et peintes à Arras, AR qui signifie Arras.
On retrouve la suite de l'historique du bleu d'Arras avec Christelle Perrier, décoratrice sur porcelaine. Donc cette époque-là, qui a duré 20 ans, hein, de 1770 à 1790, finalement était assez courte. Comment ça a été relayé ? Il y a un monsieur Caudron qui est intervenu.
Très courte période pendant 20 ans, et il y a vraiment un fossé entre la Révolution, vous imaginez, et les années 60, 1960, où un monsieur du nom de Caudron, qui est un passionné, qui est vraiment un historien, qui s'intéresse vraiment aux archives, qui va retrouver des tessons de porcelaine d'époque, où on explique qu'à l'époque... On les jette dans les puits, dans les bauves, qui va retrouver tous ces vestiges, cette magnifique collection de porcelaine d'époque. Il va avoir une idée géniale, Caudron, il va se dire je vais relancer la porcelaine ici à Arras. Pour ça, il va s'entourer de peintres qui va faire venir du Portugal, parce que Caudron, ça va être vraiment un gérant, hein, un commerçant pur. Il va s'entourer d'artisans, d'artistes, hein, qu'il va faire venir du Portugal pour peindre ses porcelaines.
Oui, carrément, il a été cherché au Portugal des artistes.
Tout à fait. D'accord. Oui, déjà des spécialistes qui peignaient déjà les azulejos, hein, ces carreaux bleus et blancs. Il va leur montrer ces porcelaines d'époque et il va leur dire, voilà, mémorisez ces décors, vous allez apprendre et vous allez peindre pour moi. Et c'est grâce à Caudron que dans les années 60, la porcelaine d'Arras va revoir le jour ici. Caudron va également s'entourer d'un petit jeune qui s'appelle Maurice Ségard, qui est mon prédécesseur direct. Maurice Ségard, il va rentrer chez les Caudron très très jeune, hein, en tant qu'apprenti à l'âge de 17-18 ans. Il va être vraiment formé par les Caudron, hein, les Portugais eux-mêmes. Ça va devenir un très bon peintre sur porcelaine. Et c'est Maurice Ségard qui, au bout de 18-20 ans de travail chez Caudron, va créer au bleu d'Arras. Voilà, il est ambitieux, Monsieur Ségard. Il va décider à un moment donné de créer son entreprise qu'il va appeler au bleu d'Arras.
Et vous, Christelle Perrier, quel a été votre parcours avant d'arriver au bleu d'Arras ?
quand Maurice Segard cherche un repreneur, eh bien, j'arrive au bon moment. Il va me former. Alors, je suis déjà du métier, hein. Je suis une ancienne professeure de céramique, mais je ne sais pas peindre ces décors. J'ai vraiment été formée par Maurice Segard, parce que ces décors, vous les avez vus, hein, sont d'une extrême finesse. Donc, il faut déjà avoir avant tout le talent, ce don. On est avec et on le travaille avec les écoles, hein, dans ces fameuses écoles. Hein.
Ça a commencé, vous aimez bien peindre
Très tôt, je découvre ce don que j'ai hérité de ma maman. À l'âge de 5-6 ans, je dessine déjà très bien et je dis à ma maman, je veux faire du dessin. À l'âge de 9 ans, je vais avoir une révélation, je vais découvrir un potier à côté de chez mes parents et je vais travailler la terre, je vais fabriquer des émaux, je vais cuire dans son petit four. À 9 ans, on est à côté de Dijon, en Bourgogne, où mes parents habitent, à une dizaine de kilomètres de Dijon, dans un petit village qui s'appelle Saint-Julien, petit village où je vais travailler chez ce potier pendant quelques années. Je sais que je vais faire ce métier-là, quand, comment, je sais pas, mais je vais continuer mes études dans les arts du feu. Alors moi, j'ai un cursus très spécial, hein, très atypique. Je vais faire un diplôme de niveau bac. Je vais faire un brevet de technicien dessinateur en arts appliqués parce que c'est avant tout le dessin qui me passionne. Mmh. Et je vais trouver à une trentaine de kilomètres de Dijon ce lycée professionnel de la céramique où je vais me spécialiser en décoration sur céramique. Dans ce lycée, on peut se spécialiser en modelage, comme mon mari par exemple, en façonnage, en tournage. Moi, c'est vraiment le dessin peindre sur la porte, sur la céramique.
Quelles sont les étapes de production d'une porcelaine ?
Il y a la fabrication, il y a le rachevage, tout ce qui est finition des pièces, il y a le tournage, monter les pièces, il y a la décoration. Oui, on a à peu près quatre.
Quatre grandes étapes pour arriver au produit fini. Enfin, il y a quand même
le
travail de
cuisson aussi. C'est ça, il y a beaucoup d'étapes.
Oui. C'est ça. Oui. Alors comment ça se passe? C'est modelé et qu'est-ce qu'on modèle? Quelle matière on modèle pour faire de la porcelaine?
Pareil, pour faire de la porcelaine, on modèle en terre. Par exemple, si on veut faire une sculpture, par exemple, on va modeler un personnage en terre. Sur ce personnage en terre, on va faire un moule en plâtre. Bon, là, c'est vraiment le travail pur du modeleur, hein, qui a appris à utiliser le plâtre, à le mouler, etc. Après, ce plâtre, on va pouvoir... alors, il y a différents procédés de fabrication. Il y a le pressage, il y a le coulage, il y en a plein. Hein. Ouais. Il y a l'estampage. Après, avec ce moule, on va pouvoir couler de la terre liquide dedans. On va pouvoir démouler ce moule et on va avoir, en fait, un biscuit de porcelaine qui va être cru.
Voilà, alors, le thème de biscuit de porcelaine, c'est un terme important, de métier qu'on entend souvent. Je crois que c'est au 17e ou 18e, c'était très à la mode, les biscuits.
Alors,
notamment.
Le biscuit, c'est une porcelaine qui a été cuite une fois, en fait. Elle est non émaillée, elle est brute, en fait. Hein. On a de très beaux biscuits blancs, souvent du statuaire, des sculptures, des choses comme ça. Alors, nous, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'après ce biscuit, il faut l'émailler. Donc, il y a encore une étape, c'est l'émaillage, le bain d'émail, fabriquer son émail.
Donc c'est encore d'autres techniques, d'autres étapes.
C'est ça, j'imagine. C'est encore d'autres étapes. Cuire cet émail, toujours dépendre de ses fours. Nous, tous les céramistes dépendons de nos fours. C'est vraiment notre outil. Hein. Après, il faut recuire cet émail pour qu'il devienne brillant. Et moi-même, je peins sur cet émail qui est déjà cuit. Je peins et cette peinture qui n'est pas bleue quand je peins, qui est mauve-grise, il faut que je la recuise à 1300 degrés pour qu'elle se développe avec ce bleu particulier et profond qu'est le bleu d'Arras.
Ah, c'est ça, quand je suis passé dans votre petite échoppe là, au 32 Place des Héros, tout au fond, je vous ai vu peindre et vous dessiner comme des oiseaux, des hirondelles, comme ça, avec ce bleu grisâtre sur ce biscuit de porcelaine. Et c'est donc c'est très minutieux. Et donc, à partir de là, quelles sont les étapes qui suivent après de cette assiette que j'ai aperçue ?
Alors, une fois que j'ai peint, donc j'ai fait tous mes repères sur mon assiette, que j'ai vraiment préparé l'assiette, je vais peindre avec cet oxyde de cobalt hein, que je mélange avec du médium ou de l'essence ou une huile spéciale ou une essence de lavande principalement. Ça, je le mets au four. Voilà, pour que ce bleu, ce mauve-gris se développe en bleu, il faut absolument passer par l'étape du feu, d'où les arts du feu. Hein. Donc, à 1300 degrés pendant 6 heures. Donc,
6 heures, oui. C'est
la nuit, si possible, en heure creuse.
Donc vous lancez les cuissons le soir en partant. Oui, il y a une sécurité quand même, parce que voilà, j'imagine que c'est dangereux de...
j'ai un programmateur, hein, je programme, j'ai des programmes de cuisson, et c'est-à-dire que quand je lance mon four, je ne suis pas là sur place à la boutique. Donc je découvrirai en fait...
Le lendemain matin, c'est la découverte.
Pas le lendemain matin, on doit faire refroidir le four, donc on a toute une étape successive où il faut ouvrir des trappes pour que la chaleur s'échappe. Donc je vais défourner que le lendemain vers 17h, 18h, où là j'aurai la finalité de mon travail.
Si tout est nickel, comment
voilà,
dit.
On a des petites surprises, des fois des bonnes, parfois des mauvaises, c'est rare, hein, mais en général, c'est défourner un four chaud, c'est. Il y a une forme d'excitation. Oui. Ah, c'est génial.
C'était avant, pour la photographie argentique, c'était un peu ça qu'on attendait.
C'est ça.
Le résultat sur papier, le développement, voilà. Mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner.
Voilà, en ouvrant le four, j'ai la même sensation.
C'est ça. Je suis allé le samedi après-midi pour assister à un défournement de porcelaine. Dans une pièce arrière, deux fours massifs, d'un bleu électrique, trônent dans la pièce. Vers 4h, 4h30, Christelle ouvre les trappes latérales et supérieures du four.
Ça a l'air chaud là.
On sent, ouais, c'est ça, on sent quand même. Déjà, il y a de l'air chaud.
Voilà, ouais. Je peux faire que ça. Vous pourrez l'ouvrir qu'à 250 degrés.
C'est ça. Et là, tu sais qu'il y a combien ?
520.
520 ?
Ouais.
D'accord.
520, donc il va chuter.
Il faut encore attendre 3 heures, c'est ça ?
Ouais,
je te dis
100.
100 par heure, tu m'as dit.
100 par heure, à peu près.
C'est ça. Donc c'est la moitié, quoi.
Ouais. C'est ça. Après, là, ça va...
Oui, c'est
contre,
dans 3 heures.
Ça va refroidir plus vite, parce que du fait que j'ai enlevé les trappes, on va peut-être mettre moins d'une heure, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Donc là, ça sera moins d'une heure.
Vers 18h, on retourne dans la chaleur de cette pièce arrière pour assister à l'ouverture de ces grosses portes métalliques. L'ensemble de ce four contient des briques réfractaires et un tissu blanc qui semble ouateux, qu'on appelle la moufle. À l'intérieur du four à moufle, les plaques et des petits piliers de quelques centimètres de haut permettent de superposer les objets de porcelaine qui viennent de subir leur troisième et dernière cuisson. Action, c'est parti.
Allez. Il va faire très chaud. Ta-da.
Ouais.
Voilà, tu vois. Souvent, je remets le ventilo devant pour que ça rechute un peu.
Ouais.
Voilà, donc là, tout est cuit. On a hâte de sortir.
T'as combien de pièces, là, par exemple ?
Oh,
à peu près. Je compte, il y a quelques assiettes. Il y a peut-être une dizaine d'assiettes, à peu près.
J'ai une 15-16, allez, avec les petites babioles, j'ai une vingtaine de pièces. Ouais.
Ah, c'est ça.
Ouais, j'aurais pu le monter un peu plus haut, mais j'avais plus matière à.
Et par exemple, les plaques que tu mets au-dessus,
ouais.
Alors qu'il n'y a que des assiettes en dessous, c'est ouais. D'un point de vue calorifère, tu es obligé de mettre pour que la chaleur passe.
Oui. Si je dois respecter toujours à peu près une hauteur, je ne peux pas dire de combien de centimètres, mais il faut que l'air circule bien, il ne faut pas que ce soit
là,
trop
là, assez. On a à peu près une dizaine de centimètres entre chaque plaque.
Il faut que ça soit bien, bien homogène.
D'accord.
Pour que la cuisson elle soit homogène partout. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop petit, qu'il n'y ait pas d'espace trop petit entre les deux plaques d'enfournement.
Parce que les dangers, c'est quoi ? C'est que la chaleur ne soit pas homogène. C'est ça, il faut la rendre la plus homogène possible.
La chaleur, elle ne soit pas homogène. Du coup, que tu aies des petites variantes au niveau de la couleur, par exemple. Ça sera minime. Hein, il y aura peut-être moi qui le verrai. Mais en tout cas, il y aura des petites variations comme ça. Le bleu ne va pas forcément bien se développer.
D'accord.
Si ce n'est pas homogène dans ton four.
Donc, alors, l'oxyde de cobalt, quand il est, quand tu le mets... Si différence d'épaisseur, il devient. S'il est moins épais, il devient transparent. Qu'est-ce qu'il devient ? Le bleu, il s'éclaircit ou
Tout à fait. En fait, avec le pinceau et le savoir-faire, la pression du pinceau, j'arrive à faire des dégradés. Donc là où j'aurai plus de matière d'oxyde de cobalt, ça sera très foncé, très intense. Là où j'aurai un enlevé, un jeté, comme ça, quand je vais retirer mon pinceau, ça sera beaucoup plus clair.
D'accord.
Voilà. Donc on
va... enlever un jeté, c'est
que... enfin, enlever. Le moment où je fais ma touche ou faire une feuille, par exemple, avec mon pinceau, je vais attaquer avec le pinceau. Je vais vraiment avoir une pression plus forte au début de la feuille, et après je vais tirer mon pinceau en fait pour tirer ma feuille, pour affiner ma feuille, pour avoir presque une tige quoi en fait. Là, au niveau de la tige, ça sera beaucoup plus clair. Puisqu'il y aura un enlevé de peinture, un petit peu, si je peux l'expliquer comme ça. C'est un peu difficile à expliquer, il faut vraiment me voir
peindre. C'est comme une calligraphie un peu.
C'est ça,
C'est la calligraphie chinoise.
Voilà,
un peu,
c'est ça. Donc on arrive à faire des dégradés, c'est dans le coup de pinceau, dans le savoir-faire. On arrive à faire des couleurs plus claires en diluant un peu plus ce bleu. Mmh. Là, on met un peu plus d'huile et de médium. Et on arrive à avoir cette couleur beaucoup plus claire. Et puis après, c'est dans la technique. Mmh.
Ben merci Christelle.
Voilà.
Oh, super.
Ma dernière question à Christelle Perrier évoque la collection de bleu d'Arras présente aux Beaux-Arts de la ville et dans l'exposition Sacre Bleu qui a été présentée du 15 octobre 2016 au 6 février 2017.
C'est vrai que c'était une magnifique exposition que j'ai vue d'ailleurs aussi, je ne l'aurais jamais loupée. Il y avait beaucoup de porcelaine d'époque, il n'y avait pas que ça, il y avait des dentelles, tout était sur le bleu, enfin, c'était vraiment magnifique. Bon, c'est vrai que j'ai des projets aussi pour, pourquoi pas, travailler avec des vitraillistes.
Notamment un arrageois.
C'est ça, un arrageois
qui s'appelle
David Paulet. Pourquoi pas travailler avec lui, associer un vitrail et une porcelaine, ce qui serait juste extraordinaire. J'y réfléchis, après voilà, il faut prendre le temps... il faut du temps, voilà.
Merci beaucoup, Christelle, d'être venue dans les studios de Radio PFM. Et on aura l'occasion de se revoir dans les jours qui suivent et même après, j'espère.
Merci à vous.
Christelle Perrier dessine dans son magasin au Bleu d'Arras, au 32, Place des Héros. Au Bleu d'Arras est ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h45. Ce reportage a été réalisé par Pierre-Charles Boisdin de Radio PFM.